7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, pénibilité et précarité du travail en Afrique. Plus d'un travailleur sur trois vit dans des conditions d'extrême pauvreté et ce sont souvent ces mêmes personnes qui ont un travail dur dans l'agriculture, dans la gestion des déchets, dans les travaux publics, dans le bâtiment, avec peu de machines pour les aider. Autant de secteurs repoussoirs pour les jeunes, car en gros, ils ne veulent plus aujourd'hui casser des cailloux par 40 degrés pour un salaire de misère. Alors comment les pouvoirs publics peuvent-ils agir pour améliorer ces conditions ? Quelles vont être aussi les conséquences du réchauffement climatique sur la pénibilité au travail ? On va en parler notamment avec l'Organisation internationale du travail qui fête cette année ses 100 ans. Bonjour Mustapha Kamal Gueye.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité emploi vert au Bureau international du travail, donc la même organisation que l'OIT. Cyril Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail pour la France. Également avec nous le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Bonjour Mamadou Touré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes également porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Et Marie-Pierre Nicolet, directrice du département transition démographique et sociale de l'AFD, l'Agence française de développement. Bonjour Marie-Pierre Nicolet.
Bonjour à tous.
Vous organisez demain, enfin l'AFD organise demain à Paris une conférence sur l'emploi décent comme enjeu démocratique mondial. Un enjeu d'ailleurs qui n'épargne pas les États-Unis avec de plus en plus de manifestations pour l'augmentation du salaire minimum, notamment dans la restauration rapide. Les voisins, appelez-nous si vous travaillez sur des chantiers difficiles dans votre pays ou si vous êtes patron d'entreprise. Que faites-vous au juste pour améliorer les conditions de travail de vos employés ? 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro sur WhatsApp pour nous laisser des messages. Je vous lis quelques messages postés par nos auditeurs que bien sûr vous pouvez commenter. Ozana Njamena au Tchad nous dit que le travail en Afrique c'est le calvaire. Je suis agent de sécurité dans un hôtel. Je suis debout 12 heures par jour avec un salaire de 55 000 francs CFA, 83 euros par mois, 100 jours de congé. Souvent, je ne suis pas payé pendant 3 mois. C'est vraiment de l'esclavagisme, mais je le fais pour vivre. Hervé est à Lubumbashi. En RDC, les sociétés chinoises ne respectent pas les travailleurs. Et dans les sociétés étatiques, c'est l'enfer. On peut mourir à tout moment à cause du manque de sécurité. Mustapha est à Cotonou, au Bénin. Ici, nous dit-il, il y a des enfants de moins de 10 ans qui sont apprentis chez des fabricants de marmites. J'ai vu combien leur travail est difficile. Ils travaillent 12 heures par jour. Je me demande ce que fait le ministère concerné. Message également de Sekou, qui est un travailleur malien à Kaolack, au Sénégal. Il a posté sur WhatsApp.
Bonjour, bonjour. Moi-même, j'ai peur parce que, bon, ici en Afrique, les conditions sont très, très précaires. Beaucoup de gens travaillent sans gants. Surtout, bon, le métallique. Le métallique travaille sans protection. Les gaz qu'il produit. Bon, c'est très dangereux pour l'organisme. Les étincelles du moelle, même les maçons travaillent sans protection. Il fait des états sans protection. Des états L+4, L+5, même sans protection. Bon, les idées sont là. La pratique est là. Mais les moyens causent problème. Oui.
Bon, vous n'êtes pas étonné de ce type de témoignage au Bureau international du travail, Mustapha Kamal Gueye?
Non, pas du tout. Et je pense que c'est une situation globale de précarité, d'une part importante de l'informel dans le travail, et ça fait partie des enjeux du travail décent pour l'OIT.
Alors les voisins nous parlent aussi des salaires. Écoutez le message de Romli, travailleur à Brazzaville.
Bonsoir les voisins. Quand j'ai vu le sujet, vraiment ça m'a intéressé, ça m'a vraiment... J'ai même les larmes aux yeux, parce que c'est ce que je suis en train de subir actuellement là, dans mon cas vraiment. J'ai fait la formation de la métrologie sur la mécanique générale, mais tellement que je n'ai pas fini ma formation, j'étais qu'en train de trouver, chercher du boulot. Là, actuellement, je travaille dans une société de gardiennage. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est la manière dont ils traitent les travailleurs. Ça me fait 2 mois de cela que je suis dans cette société-là. Quand j'arrive devant mon bulletin, j'ai les larmes aux yeux parce que je n'arrive même pas à m'en sortir. Parce que quand je vois ce que je gagne, je regrette. Mais actuellement, là, je ne peux rien faire, je suis obligé de me contenter de ça parce que si je ne le fais pas, je serai content peut-être d'être un vagabond ou d'être un voleur ou d'être un voyou. Je suis obligé de supporter. Je loue un studio de 25 000 parce qu'il faut payer l'eau, il faut payer le en totalité c'est 25 000. Le manger, le déplacement, chaque jour je dépense 600 francs. Donc même pour manger, pour aller prêter encore de l'argent, un 10 000, un 20 000 pour le manger. Et ça me fait mal, ça me fait très mal, je ne sais pas quoi vous dire au fait. Les mots me manquent vraiment.
On a reçu également des témoignages de fonctionnaires sur la pénibilité. Ça, ça nous a étonnés, disons, par rapport à il y a quelques années. Diderot, enseignant à Yaoundé, nous dit « Moi, j'enseigne dans un poulailler, c'est difficile dans ces conditions à cause du bruit, mais je fais avec. » Et puis, un fonctionnaire, un Djamena, William, enseignant en école de formation professionnelle le soir, agent de la Direction Générale des Impôts dans la journée. « Travailler au Tchad, nous dit William, c'est invivable. À la Direction Générale des Impôts, les agents sont mal payés, maltraités. Les bureaux sont presque des poubelles, pas de chaises pour les visiteurs, pas de climatisation en cette période de canicule, pas de service de ménage, pas de fourniture, ni stylo. Travailler au Tchad, c'est s'armer de beaucoup de courage et se dire que tout peut arriver quand on contrôle une entreprise. » Voilà le message d'un fonctionnaire tchadien. Bien évidemment, ça ne concerne pas tous les pays du continent. Vous pouvez nous téléphoner, même si vous êtes bien sûr employeur, patron d'entreprise. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Alors à la lumière de tous ces témoignages que nous avons reçus sur la pénibilité et la précarité du travail en Afrique, est-ce que l'Afrique, parce que c'est un continent de jeunes, parce que c'est un continent du travail informel, est plus touchée par ces problèmes de travail décent par rapport à d'autres régions du monde en développement, Marie-Pierre Nicolet ?
Indubitablement oui. L'Afrique est davantage concernée par ce problème. Les taux sont effectivement extrêmement étonnants. On a 89% en Afrique subsaharienne, quasiment des femmes qui travaillent dans le secteur informel, si on inclut l'agriculture. On arrive à ce type de taux stupéfiant. Et quant aux jeunes, je crois qu'on n'est pas loin aussi de 90% des jeunes qui travaillent dans l'emploi informel. Par emploi informel, d'ailleurs j'interroge le BIT, on dit un peu deux choses. Hein. On dit les travailleurs du secteur informel, mais on dit aussi les travailleurs qui sont embauchés par des employeurs qui ne respectent pas le droit du travail. C'est la somme des deux. Et c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres stupéfiants.
Et c'est pour ça qu'il faut aussi, bien sûr, qu'on donne la parole à des salariés dans des entreprises formelles, hein, qui peut-être aussi sont concernés par des problèmes de pénibilité, de manque de réglementation ou de réglementation qui n'est pas appliquée. Mamadou Touré, vous êtes ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Auparavant, vous étiez secrétaire d'État à l'enseignement technique. Dans votre pays, on a Marie-Pierre Nicolet le disait, en Côte d'Ivoire, là, on a plus de 90% des emplois qui sont dans l'informel. Est-ce que, chez vous, l'informel, c'est la raison de la précarité, de la pénibilité de l'emploi ?
En tout cas, c'est l'une des raisons importantes. Parce que, par définition, lorsqu'un travailleur est dans l'informel, il y a toute l'insécurité qui entoure donc son travail. Vous avez énormément de personnes qui travaillent sans contrat de travail écrit, ce qui donc les met dans une situation donc de précarité et donc qui les rend vulnérables vis-à-vis même des employeurs. Vous avez aussi, j'ai écouté donc le gardien qui expliquait un peu la pénibilité de son travail, c'est les réalités que nous trouvons aussi dans notre pays malheureusement. Ce que le gouvernement essaye de faire, c'est déjà d'améliorer donc le niveau de rémunération des travailleurs. Le SMIC est passé donc de 30 000 francs à 60 000 francs CFA. Mais là encore, c'est vrai que c'est une décision qui a été prise. Et il nous faut agir maintenant pour l'application effective donc de ces mesures par les travailleurs. Vous avez un code du travail aussi qui a été adopté, qui donne un peu plus de sécurité donc à des travailleurs, qui oblige à assurer un minimum donc d'assurance pour certains nombres de travailleurs, mais l'application aussi, nous devons faire la police pour que les employeurs puissent appliquer donc l'ensemble de ces mesures.
Ouais, on va en parler de la réglementation. Dans l'agriculture, qui est le premier réservoir d'emploi pour les jeunes en Côte d'Ivoire, près de 50% des postes qui seraient disponibles, des emplois qui seraient disponibles sont dans l'agriculture. C'est aussi le secteur où le travail est le plus dur, le moins bien rémunéré.
Il faut relativiser. Ça dépend de quel secteur de l'agriculture. Mais de façon générale, les jeunes qui sont dans le secteur agricole pour beaucoup le sont quand ils n'ont pas d'autres opportunités. Malheureusement, nous avons une mentalité de fonctionnaire dans nos pays. Des jeunes veulent d'abord travailler dans l'administration publique et généralement, ils vont vers le secteur agricole quand ils n'ont pas d'autres choses à faire. Maintenant, lorsque vous prenez les cultures vivrières, qui sont des cultures saisonnières, avec aujourd'hui donc le changement climatique, vous avez donc les cultures qui sont impactées et donc la production même donc de ces cultures pose problème et le jeune peut se retrouver à cause du dérèglement donc climatique à ne pas avoir de revenus dans la période indiquée parce qu'il y a eu moins de pluie ou il y a eu trop de pluie.
Ça c'est pour l'aspect précarité.
Ça c'est l'aspect précarité. Maintenant après il y a aussi tous les moyens nécessaires pour travailler dans le secteur agricole. Ce que nous faisons, nous...
Qu'est-ce que vous appelez tous les moyens ?
Mais, la mécanisation, par exemple, de l'agriculture, qui, au lieu de travailler avec une daba ou une machette, on aurait pu avoir donc, une machine qui permettrait de travailler. Vous prenez les femmes qui font aujourd'hui donc, de la tiqué. Nous avons quand même une petite évolution avec des broyeuses qui rendent donc le travail moins pénible, mais il existe encore des femmes qui sont à la méthode très traditionnelle, donc qui rend pénible donc, le travail qui est fait. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la dynamique et avoir une réelle volonté politique, mais surtout mettre en place des instruments d'accompagnement, ce que nous avons fait pour des jeunes qui veulent entreprendre, essayer donc de financer autant que se peut pour qu'ils puissent donc avoir les moyens de travailler comme ils le veulent.
Là, vous faites plutôt allusion à de la transformation de produits, à de l'agroalimentaire.
En tout cas, l'orientation économique aujourd'hui chez nous, c'est donc d'aller vers l'industrialisation ou la semi-industrialisation de certains produits.
Ouais, mais il faut déjà les faire pousser, ces produits.
Oui, nous sommes un pays essentiellement agricole. Le véritable défi auquel nous pouvons confronter, je l'ai dit tantôt, c'est le changement climatique qui peut impacter notre tradition agricole. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple du manioc, de la tiqué. La plupart des femmes qui sont les femmes ébriées d'Abidjan, aujourd'hui, ont des unités de production donc, du manioc pour faire de la tiqué, ce que vous n'avez pas il y a 10 ans, 15 ans. Donc, c'est déjà une évolution. Mais il y a encore beaucoup
avec
de choses à faire.
Avec un travail plus mécanisé. Voilà. Donc, sur l'agriculture, Mustapha Kamal Gueye, quel va être l'impact du réchauffement climatique ? Est-ce qu'on sait déjà ? Est-ce que ça va accentuer la pénibilité du travail?
Alors, pour le changement climatique, il y a ce réchauffement qui va forcément impacter négativement les producteurs. Au niveau de l'OIT, nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que seraient des pertes en termes de productivité du travail si les tendances actuelles de réchauffement se poursuivent. Et on a estimé qu'avec ces tendances, d'ici 2030, c'est en moyenne 2% du temps de travail mondial qui va être perdu. Et lorsqu'on regarde les régions du monde, il y a beaucoup plus de phénomènes de réchauffement, comme en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud, c'est 4%.
Quand vous dites 2% ou 4% du travail qui va être perdu, ça veut dire quoi sur une année ou sur quelques mois pour un travailleur agricole, concrètement?
Oui, c'est-à-dire
qu'il va travailler moins ou plus dur?
Il va travailler moins parce qu'il y aura des heures de la journée où il fera simplement trop chaud pour que quelqu'un puisse travailler. Et donc, cette moyenne mondiale, lorsque vous la transférez en termes de points d'emploi, c'est 72 millions d'emplois équivalents qui sont perdus d'ici 2030, simplement parce qu'on va perdre des heures de travail et par conséquent de productivité dans l'agriculture, dans le bâtiment et d'autres secteurs, surtout l'agriculture et le bâtiment.
Donc ça veut dire que le réchauffement climatique ne va pas améliorer les conditions de travail, au contraire.
Non, pas du
tout. Tendance à rendre le travail encore plus difficile du fait de l'augmentation de la température. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont touchés de plein fouet par la précarité et par la pénibilité du travail sur le continent africain ?
Alors, pour les secteurs qui sont liés à l'environnement et aussi en pensant perspective de possibilités d'emploi vert, un des secteurs particuliers, c'est celui de la gestion des déchets et du recyclage. Donc aujourd'hui, 4/5 de ce qui sont dans la collecte traitement des déchets sont dans l'informel. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas connus, le nombre de ces personnes, les tendances, les conditions de travail. Et donc c'est un secteur où il y a la précarité, il y a un travail des enfants, il y a des revenus insignifiants. Et donc un gros effort que nous faisons, c'est d'essayer de passer de cet informel vers le formel. Et il y a des exemples où des résultats ont été faits. Nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de pays, avec une approche coopérative au Sénégal et ailleurs. Et il y a des pistes.
Vous dites au Bureau international du travail à l'OIT, à Cyril Combe, tous les deux, vous dites on ne peut améliorer les conditions de travail qu'en passant de l'informel au formel.
En tout cas, ce qu'on dit, c'est que la prévalence de l'informel dans des proportions très importantes, comme M. le ministre l'a rappelé, de l'ordre de 80-90%, c'est incontestablement un facteur majeur qui explique la précarité de l'emploi dans ce continent-là. Donc la clé, je dirais, du développement et du développement durable, c'est incontestablement de favoriser des stratégies de transition vers l'économie formelle. Parce que si l'on maintient des taux de prévalence comme on les connaît aujourd'hui, on maintiendra une situation où les gens qui sont à l'origine des témoignages que l'on vient d'entendre seront toujours exposés à des facteurs de précarité extrêmement importants.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas appliquer dans le secteur informel pour protéger les travailleurs? On peut appliquer un SMIC horaire, par exemple, quand on est dans l'informel ou pas, concrètement?
Le propre de l'informalité des travailleurs informels, c'est que précisément, ils évoluent en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Soit parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils travaillent dans des secteurs qui ne sont pas couverts, qui sont exclus de la loi. Soit parce qu'ils travaillent dans des unités formelles, mais ils ne sont pas déclarés.
Donc la réalité du SMIC horaire que vous citiez, Mamadou Touré, finalement, est-ce qu'elle est appliquée alors qu'on est dans l'informel?
Selon que vous soyez donc dans le secteur formel ou informel, les choses changent. Dans l'informel, ce que je vous dis, c'est qu'il faut un contrôle plus accru, parce que par définition, c'est un secteur informel. Le travailleur n'a pas de contrat de travail. Il n'y a quasiment pas d'obligation donc de l'employeur à l'égard donc de l'employé. Donc il est difficile.
Pas de mutuelle santé.
Voilà, pas de mutuelle santé. Mais par contre, lorsque vous allez vers des emplois plus formels, oui, là, l'application donc du SMIC est beaucoup plus une réalité.
Oui, plus formel, parce qu'il ne faut pas complètement diviser l'emploi, enfin mettre dos à dos l'emploi informel, l'emploi formel. Il y a aussi des situations qui sont, on va dire, un peu un pied dans les deux secteurs. Hein. Il y a des entreprises, on l'a vu plusieurs fois dans cette émission, où on est à la fois un peu dans l'informel et un peu dans le formel, Marie-Pierre Nicolet, non ?
Oui, je dirais même que ce qu'on observe, c'est des travailleurs qui font des va-et-vient entre l'informel et le formel. Il y a une étude très intéressante en Éthiopie sur le secteur agroalimentaire, où en fait on constate que les jeunes travailleurs qui sont rentrés dans des entreprises réputées formelles en sont partis au bout de quelques mois parce que le niveau salarial ne leur permettait pas de vivre dignement et qu'ils n'avaient pas le début d'une assurance maladie. Et ils sont même revenus dans l'informel en se disant qu'ils avaient peut-être plus d'opportunités offertes par par l'auto-emploi. Si tant est que les pays, grâce à des politiques de l'emploi vigoureuses, aident ces jeunes via l'auto-emploi à vivre à peu près décemment. Donc voilà, ça c'est un phénomène. Je crois que les deux formes d'emploi en fait finalement coexistent et se développent l'une à côté de l'autre et avec des va-et-vient entre les deux.
Moi, il me semble que c'est important de souligner que, comme on parle quand même de 90% de la population au travail, ça masque une très grande diversité des situations. Donc c'est qui en fait les travailleurs informels? C'est en majorité, ce sont des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui aussi, avec beaucoup de talent, d'ingéniosité, finalement, se livrent à un petit business en dehors, encore une fois, de toute forme de déclaration ou d'activité déclarative. Mais c'est aussi des travailleurs domestiques. La dernière convention de l'OIT, c'est la convention sur le travail domestique, et c'est on espère en tout cas un puissant facteur de transformation de l'emploi dans les pays dont on parle. Ce sont des travailleurs familiaux, notamment dans le monde de l'agriculture. Et là, ce n'est pas un phénomène propre à l'Afrique. Hein. Et même en Europe, il y a 50 ans, le problème des femmes d'exploitants agricoles, c'était un problème majeur pour accéder à un certain nombre de droits.
On peut dire aujourd'hui qu'il y a plus de femmes qui sont... Est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui en Afrique qui sont exposées à la précarité et à la pénibilité du travail que les hommes, ou pas ?
Oui, je pense qu'on peut dire qu'elles sont plus exposées que les hommes, même si les hommes le sont en très grande majorité également.
On parlait du travail domestique. La Côte d'Ivoire a eu des velléités d'essayer de formaliser un petit peu plus le travail domestique qui touche beaucoup de femmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Mamadou Touré ?
Effectivement, il y a quelques années, il y a une députée à l'Assemblée nationale qui avait pris une initiative visant à poser le problème donc de ces jeunes filles qui vivent quasiment dans une sorte d'esclavagisme au sein donc de certaines familles. Le ministère donc de la protection sociale, à travers donc le code du travail, a pris une série de mesures. Bien évidemment, ces mesures ont été prises pour garantir déjà le salaire minimum, comme je l'ai dit, obligé à la déclaration donc à la CNPS, obligé pour certains types de travail à avoir une assurance pour l'employé. Maintenant, faut-il que ces mesures soient appliquées donc par ceux qui... Et le contrôle est très, très, très difficile parce que ces jeunes filles qui travaillent au sein de certaines familles le sont dans une approche très informelle. Elles ne sont pas déclarées, vulnérables, se contentent souvent du peu qu'on leur donne et ne sont pas enclins à aller donc protester, porter plainte contre les conditions de travail dans lesquelles elles sont. Donc,
Employés dans des domiciles privés, donc d'autant plus compliqué, il faudrait presque faire du porte-à-porte.
Voilà, donc les dispositions existent, il faut de la sensibilisation, mais au-delà de la sensibilisation, il faut un contrôle des sanctions quand les règles ne sont pas respectées.
Alors on va essayer de voir comment on peut sensibiliser aussi la population, l'économie, parce que dans le fond, est-ce que cette pénibilité, cette précarité, est-ce qu'elle sert l'économie ? Est-ce qu'elle sert le dynamisme économique d'un pays ? Est-ce qu'elle sert la création d'entreprises, l'innovation, Mustapha Kemal Gueye ? Est-ce que sur le plan purement économique, les entrepreneurs sont gagnants finalement à conserver ce statu quo d'une forme de précarité, de pénibilité au travail.
Oui, alors pour l'économie de façon globale, ce qu'ils sont dans l'informel, ce qu'on leur reproche souvent, c'est qu'il n'y a pas de contribution sociale, il n'y a pas de paiement d'impôts.
Donc la main-d'œuvre coûte moins cher.
Voilà, ça coûte moins cher, mais d'un point de vue macroéconomique, pour un État, il y a des pertes. Et pour ces entrepreneurs, en fait, ce qu'on voit, c'est souvent ce qu'ils sont dans l'informel, c'est ce que nous avons un peu labellisé, des entrepreneurs par défaut ou par nécessité. Et l'idée, c'est maintenant comment de les faire passer à des entrepreneurs par vocation. Et ça permet d'avoir plus de productivité. Et je pense que beaucoup d'États essaient de s'orienter vers cette approche, renforcer la productivité de ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Comme au Sénégal, ils ont cette délégation à l'entrepreneuriat rapide qui est essentiellement orientée à faire ça. Trouver ceux qui sont déjà dans le temps de l'action, les rendre plus productifs pour eux-mêmes et pour l'économie.
Alors, quelle solution, en effet, pour améliorer les conditions de travail, l'auto-emploi pour l'emploi des jeunes ? Est-ce qu'il faut renforcer les réglementations ? Est-ce qu'il faut renforcer aussi les contrôles ? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Ils ont raison, je préfère le peuple. Certains disent que je suis un traître. Ils ont raison, je suis avec le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon roi. Ils ont raison, je préfère le peuple. Certains disent que Fakoli c'était. Ils ont raison, je parle pour le peuple. Et d'autres disent que je suis un rasta. Ils ont raison, Dja est mon roi. Hey.
quand d'autres augmentent leurs gains. Tant que le peuple sera dans la galère, quand d'autres se promènent dans des palais, Rastafari dira non.
Gomi, c'est le nouvel album de Tiken Jafakoli qu'on a reçu la semaine dernière chez 7 milliards de voisins avec beaucoup de plaisir. Nous parlons aujourd'hui de la précarité, de la pénibilité au travail sur le continent africain. On le disait, c'est le continent le plus touché par ces problèmes, même si ce sont des problèmes qui touchent le reste du monde, parce que l'emploi y est informel à 80, voire 90%. Et bien évidemment, les contrôles, la réglementation, y a un petit côté Far West où il est bien difficile, finalement, de satisfaire aux exigences internationales de travail décent, comme nous le rappelait Mustapha Kamal Gueye, Cyril Combe, puisque vous appartenez donc à l'Organisation internationale du travail. Mamadou Touré, vous êtes ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en Côte d'Ivoire. Et Marie-Pierre Nicolet, vous êtes à l'Agence française de développement qui organise une conférence sur ce sujet demain, vendredi. Vous nous téléphonez bien sûr au standard 33 1 84 22 71 71. Issouf nous appelle du Burkina Faso. Bonjour Issouf.
Bonjour Emmanuel.
Issouf, vous êtes enseignant d'anglais au Burkina Faso. On a reçu déjà des messages de fonctionnaires, notamment au Tchad, qui décrivaient les conditions de travail devenues apocalyptiques dans leur pays. Et finalement, vous faites aujourd'hui partie, à cause du conflit, de ces fonctionnaires qui travaillent dans des situations dramatiques.
Effectivement, Emmanuel. Il faut dire que depuis 4 ans maintenant, nous travaillons dans l'insécurité. Beaucoup d'enseignants comme moi sont menacés dans certaines localités du pays. Et récemment, il y a même eu des assassinats d'enseignants par des groupes terroristes. Mais moi, personnellement, il faut dire, je n'ai pas encore été victime, mais ces violences à l'égard des enseignants font qu'à chaque fois, par exemple, que je rentre en classe, je dis à mes élèves d'ouvrir grandement les fenêtres et les portes pour qu'en cas de danger, nous puissions tout simplement prendre la poudre d'escampette. Le moindre bruit, voyez-vous, perturbe nos activités pédagogiques. Et à propos, je vous raconte une petite anecdote. Une fois, j'étais en plein cours avec mes élèves et nous entendîmes un bruit soudain. Au fait, c'était un caillou que des enfants dehors, en jouant, avaient jeté sur le toit de la classe. Mais nous, quand on était à l'intérieur, d'ici qu'on s'en rende compte, vous voyez, c'était la débandade comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Franchement, j'exerce mon métier avec une peur indescriptible au ventre. Souvent, il m'arrive même de vouloir pleurer quand je pense que l'éducation est d'une importance capitale pour ma société et que je suis obligé d'enseigner dans une telle angoisse. Vraiment, c'est difficile, Emmanuel.
Par qui êtes-vous soutenu sur place, dans votre établissement? Par la direction de l'établissement? Par des fonctionnaires du ministère de l'Éducation? Ou par des parents d'élèves, Issouf?
Et effectivement, c'est directement le chef d'établissement, c'est le directeur de l'établissement, mais il faut dire que dans ce sens-là, nous sommes dans le même bateau. Le directeur lui-même n'est pas en sécurité, donc il est très difficile pour lui de nous protéger.
Issouf, vous auriez imaginé, vous êtes enseignant depuis combien d'années maintenant?
Cela fait depuis, je suis enseignant depuis 4 ans maintenant.
Vous auriez imaginé, il y a 4 ans, quand vous avez commencé à travailler comme enseignant, que vous pourriez témoigner de la pénibilité au travail?
Non, franchement pas. Effectivement, c'est la réalité du terrain qui me fait témoigner ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, parce que avant d'être enseignant, franchement, je n'avais pas imaginé vraiment de telles situations.
Merci beaucoup, Issouf, de nous avoir appelé. Est-ce qu'aujourd'hui, des témoignages comme ça de fonctionnaires, je vous pose la question, Marie-Pierre Nicolet, parce que l'AFD est très mobilisée sur le Sahel et la sécurité au Sahel, aujourd'hui, ça fait partie, finalement, le travail dans le conflit fait partie du problème?
Oui, c'est le manque, c'est la pénibilité du travail dans un contexte de forte insécurité politique et donc physique. C'est effectivement gagnant dans le Sahel. Ça n'est pas en voie de réduction, mais c'est en voie d'augmentation.
Ça va devenir un des problèmes aussi pour le travail, Cyril Combe.
Vous savez, du point de vue d'une organisation comme l'OIT, on a toujours considéré que le travail, c'était le reflet de l'état d'une société de façon plus générale, et que donc, dans un climat de grande tension géopolitique, évidemment que ça rejaillit sur les conditions de travail. On ne peut pas isoler le travail et les conditions de travail dans un ensemble beaucoup plus large. Et d'ailleurs, à l'origine, c'est un peu le mandat de l'OIT. Pourquoi on a créé l'OIT ? Vous avez fait référence au 100e anniversaire de la fondation de cette organisation. On a créé l'OIT en 1919 parce qu'on pensait que c'était un élément majeur pour garantir une paix durable. Pas de justice sociale, pas de paix durable sans justice sociale. C'était ce sont les premières phrases du préambule de la constitution de l'OIT. Donc on mesure aujourd'hui, malheureusement, dans cette région du monde, l'actualité de ce mandat.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin, Freddy, qui est à Beni, en République démocratique du Congo. Bonjour Freddy.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez un témoignage intéressant à nous apporter pour soulager la pénibilité du travail des femmes dans l'agriculture dans votre région.
Oui, effectivement. Nous, INPP, Institut National des Préparations Professionnelles, nous menons un projet qui est en cours avec l'appui de l'AFD pour soulager, bien entendu, la pénibilité du travail des femmes dans le secteur agricole. Alors, ce projet qui est en cours permet de réduire la pénibilité du travail des femmes, étant donné que elles sont majoritaires dans nos milieux qui s'adonnent à ce travail-là. C'est pénible, le travail manuel, et ça joue même sur l'état de santé, ça joue sur l'effort qu'elles sont appelées à fournir au quotidien pour répondre aux besoins de leur famille, de leur ménage.
Et très concrètement, ça consiste en quoi exactement de diminuer la pénibilité du travail au champ ?
Ça consiste à former toutes ces femmes dans en traction animale, l'option que nous avons choisie, la formation en traction animale pour que celles-ci soient formées au métier des dresseurs des bœufs, à l'utilisation des matériels agricoles à traction animale. Oui.
Freddy, je vais vous poser une question très naïve, hein, pardonnez-moi, mais est-ce que ça, ce sont pas des métiers qui se transmettent dans les familles de génération en génération? Ça semble être la base de conduire des bœufs qui peuvent donc tirer des laboureuses.
Alors concrètement, ici, chez nous, cette formation est une formation innovante, parce que dans les milieux... à Beni, dans la région, ce type d'agriculture n'est pas courant. Généralement, c'est la houe, la bêche, ainsi de suite. Alors, puisque tout le monde ne peut pas forcément accéder à la motorisation, nous avons fait le choix de trouver une formation médiane qui permet à la fois de réduire la pénibilité au travers du travail manuel, mais également de ne pas aller vers la motorisation qui, comme vous le savez, ça pollue l'environnement.
Oui, et puis beaucoup plus coûteuse. De toute façon, beaucoup plus coûteuse. Et que disent les femmes? Là, vous avez déjà des mesures d'impact?
Oui, nous avons sensibilisé les organisations féminines, les ONG, les partenaires locaux de la société civile. Elles ont adhéré massivement à ce projet que nous menons sur place, que l'INVP est en train de développer. Et nous allons débuter au mois de juin ici la formation, parce que nous sommes en train de procéder au recrutement, parce que cette formation se fera par groupe de 15 bénéficiaires. Et cela sera accompagné des sessions de pratique. Il y aura des suivis post-formation pour permettre à ces femmes d'avoir des nouvelles compétences.
D'accord, c'est bien noté. Merci Freddy, on a bien compris. En tout cas, voilà un exemple très concret pour améliorer la pénibilité au travail. Aujourd'hui, Moustapha Kamal Gueye à l'OIT, vous menez plusieurs projets, vous, pour tenter d'améliorer les conditions en secteur informel, notamment dans la gestion des déchets, sur la décharge, la fameuse décharge dans la banlieue de Dakar de Mbebe. Est-ce que vous avez des résultats?
Oui, alors Mbebe, c'est une des grandes problématiques de la gestion des déchets au Sénégal. Et il y a eu beaucoup d'initiatives. Bon, ce que nous essayons de faire en ce moment, c'est de travailler avec les acteurs du secteur, donc ce qui sont les récupérateurs, comme on les appelle, et avec une structure qui s'appelle le WIEGO, donc qui est femmes et dans l'économie informelle, la mondialisation et l'organisation. Déjà pour faire un état des lieux, savoir qui sont ces récupérateurs. Donc on a fait une étude avec eux qu'ils ont commandité à l'université de Dakar. Donc on sait qu'il y a maintenant 1584 à peu près récupérateurs qui sont de façon régulière dans cette zone. Et on est en train de passer maintenant avec un échantillon d'une centaine d'entre eux à une phase socio-économique pour voir quels sont les types de revenus, quels sont les
autres travails. Comment concrètement on fait quand on est sur une décharge qui fait 114 hectares de poubelles sur 15 mètres de haut? Comment on fait pour améliorer la condition de travail? C'est une décharge qui est sous gestion publique, mais en fait avec énormément de personnes dans l'informel.
Oui, effectivement.
Et quasiment personne pour gérer la sécurité d'ailleurs.
Tout à fait. Et le problème, c'est le manque d'organisation. C'est parce qu'on a environ ces 1500 qui opèrent individuellement, s'exposant individuellement à des risques. Et nous sommes en train de proposer d'aller sur une approche coopérative. C'est une approche qui a été testée ailleurs, en Argentine, en Turquie, ailleurs. Et on pense que ça permet d'avoir non seulement cette structure en place, maintenant d'aller sur les questions de santé, sécurité au travail, la précarité.
Parce qu'à plusieurs, ils peuvent se mobiliser. Parce que sinon, les jeunes qui font de la récupération, ils sont typiquement dans une situation d'auto-emploi. Ce n'est pas non plus un gage de sécurité au travail, là.
Mais ça fonctionne parce que nous avons travaillé avec des tanneuses. Dans la région, la zone de Gedjawai, sur le cuir, qui était dans cette même situation au risque de produits chimiques, et avec une action qu'on a menée, et avec des syndicats, non seulement il y avait l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, il y avait même l'Institut de la CFDT de Belleville en France, les syndicats canadiens, donc ce consortium, mais aujourd'hui, ces 50 personnes qui sont membres de la coopérative des tanneuses de Gidjawai a un revenu qui a augmenté entre 25 et 30%. Il y a une alphabétisation fonctionnelle parce qu'elles savent maintenant planifier, s'organiser mieux, investir l'argent que collectivement elles récupèrent de l'activité de tannerie, et ça a augmenté la productivité parce que les revenus augmentent quand la productivité augmente.
Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire. Mais
j'aimerais quand même partager une expérience ivoirienne. Vous savez, nous avons un programme qu'on appelle le PGDEC, qui est un programme financé par la Banque mondiale. Et l'une des composantes, ce sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qu'on appelle les TIMO, qui par définition sont considérés comme des emplois précaires.
Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Alors ça, c'est quand même... les TIMO, c'est quand même parfois un mirage. Hein,
Que... ce qui se passe, c'est que des jeunes sont mis en situation de travail dans l'entretien routier ou même au nom de l'assainissement dans les sud, donc des questions de déchets et autres. Et il se trouvait que ces jeunes avaient donc des contrats de travail de 6 mois. Et après, c'est 6 mois, plus rien. Ce que nous sommes en train d'expérimenter justement pour faire évoluer la situation de ces jeunes, déjà avec le programme de la Banque mondiale, c'est que pendant ces 6 mois, une partie des revenus de ces jeunes est épargnée. Et au bout, à l'issue des 6 mois, l'épargne constituée par ces jeunes est constituée d'un premier fonds auquel s'ajoute donc un fonds additionnel. Et ces jeunes sont...
Donc de l'argent public.
Oui, et ces jeunes donc sont amenés à créer des GIE, des groupements d'intérêt économique, donc à se structurer en mini-entreprises, micro et petites entreprises, avec un appui en financement et avec une possibilité de contracter avec des mairies, des communes, pour pérenniser donc leur action. Donc voilà un peu quelques solutions qui sont...
Mais est-ce qu'avec ce type de solution, vous arrivez à faire du volume? Parce que vous avez combien de jeunes qui, là, à l'heure actuelle, ont besoin d'être employés sur du travail décent? Plusieurs millions.
Quand vous prenez la population ivoirienne, nous avons les jeunes en âge de travailler qui constituent 36% de la population, donc plusieurs millions. Bien évidemment, lorsque vous enlevez tous ces jeunes qui sont encore à l'école, et que vous prenez ceux qui sont déscolarisés ou qui ont fini les études, on peut se retrouver donc à plusieurs centaines de milliers de jeunes. Mais ce qui est important dans ce dispositif, puisque vous avez plusieurs dispositifs, il y a des jeunes entrepreneurs qui, eux, ont un besoin de financement dans des projets plus structurés. Vous avez des jeunes qui n'ont pas eu un niveau d'instruction ou qui ont été déscolarisés, qui ont besoin d'avoir une activité, avoir des revenus. Et généralement, ce sont ces jeunes qui vont donc dans les TIMO. Mais ce que nous essayons de faire, c'est donc de les
sortir. Dans les boulots les plus durs, hein, il faut les parler clairement.
Alors, ce que nous essayons de faire à travers ce dispositif, c'est justement réduire donc la précarité en faisant en sorte qu'au bout des 6 mois, ces jeunes puissent être structurés, puissent avoir des contrats avec des communes, puissent accéder à des fonds qui financent donc des entrepreneurs, puissent avoir l'accompagnement en termes de formation pour donc améliorer leurs conditions donc de travail.
Qu'est-ce que vous pensez de ce type de solution à l'Organisation internationale du travail ?
Ça fait partie des solutions. Ça me permet de faire le lien avec un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'action de la protection sociale. Parce que l'idée des TIMO, c'est justement de pouvoir appliquer un modèle d'emploi qui puisse très rapidement générer des revenus, générer de l'emploi et de l'emploi de qualité. En tout cas, de l'emploi de meilleure qualité assorti d'un minimum de protection sociale. Et donc, les TIMO, ça permet de faire accéder à la protection sociale une partie de la population qui jusqu'ici en était exclue, en particulier les jeunes. Il y en a d'autres, hein. Je crois d'ailleurs que la Côte d'Ivoire s'est aussi engagée sur le terrain de ce qu'on appelle la couverture santé universelle, c'est-à-dire l'idée de dissocier la couverture sociale des formes d'emploi, parce que on avait peut-être trop tendance jusqu'ici à considérer que la protection sociale, comme le social de façon plus générale, c'est ce qui devait résulter d'un processus naturel de croissance économique. Avec cette approche de couverture universelle, on est dans une logique différente. Mmh. Ou au contraire, c'est ça qui est le moteur du développement, la clé du développement.
Et donc, ce n'est pas l'employeur qui déclenche l'accès à la couverture.
Il faut essayer de sortir du modèle binaire de la relation d'emploi, parce qu'avec cette relation binaire, on n'en vient à couvrir qu'une toute petite partie de la population.
Nous accueillons un auditeur qui nous appelle de région parisienne, Séverin, en ligne au 33 1 84 22 71 71. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Séverin.
Oui, je voulais m'adresser au ministre Mamadou Touré. Moi, je suis ivoirien, je travaille dans le secteur formel en France depuis 25 ans. Je voulais suggérer au ministre pour améliorer l'application, le contrôle des femmes ou hommes de ménage en Côte d'Ivoire. On pourrait confier le contrôle aux associations afin de remonter les informations au ministre. Sinon, jamais la situation sera améliorée. Parce que quand on constate dans quel état travaillent ces gens de...
L'emploi domestique, oui, on en a parlé. En effet, vous avez raison de souligner ce problème. Merci beaucoup, Séverin. Est-ce qu'il y a une coordination avec des organisations, des ONG, des associations ?
Oui, il y a de plus en plus d'organisations qui se constituent, ne serait-ce que pour dénoncer cette situation ou essayer donc de venir en aide donc à ces jeunes filles qui, souvent, au-delà de la relation du travail, sont victimes d'autres choses. Hein. Ça peut être donc des abus sexuels, ça peut être des pressions psychologiques. Donc, il y a de plus en plus d'organisation. Et ce qu'il nous faut faire, moi je pense, c'est renforcer le rôle des inspecteurs du travail. Parce que...
Qui sont combien pour tout le pays aujourd'hui ?
Écoutez, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais je pense qu'on pourrait étendre l'action donc, des inspecteurs du travail qui font des visites inopinées au sein d'entreprises, qui pourraient aussi...
Mais d'entreprises formelles pour le moment ?
Oui, d'entreprises formelles.
Donc on a des inspecteurs du travail qui ne travaillent que sur 10% du secteur de l'emploi.
Oui, mais qui pourraient donc étendre par exemple, dans ce cas précis, les visites inopinées donc dans les domiciles pour voir la situation de ces jeunes filles. Parce que les laisser à elles-mêmes, livrer à elles-mêmes, elles n'ont pas suffisamment donc, la force nécessaire même pour dénoncer.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je vais lire le message de Touré parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Il vient de nous appeler pourtant. Touré qui est ouvrier depuis 3 ans. Il a 26 ans. Il est à Grand Bassam. Aucun outil de travail. Tout est fait à la main. Beaucoup d'accidents. Les ferrailleurs tissent des poutres et poteaux à la main avec le sable. On ne peut pas utiliser de brouette. Voilà ce qu'il décrit. Alors évidemment, on ne sait pas si on est dans l'emploi formel ou informel, mais je crois qu'il faut qu'on arrête effectivement de faire une dichotomie entre les deux, parce que l'immense réalité des gens qui travaillent, eh bien, ils sont dans ce secteur.
Mais on parce voit qu'il bien y a des chefs d'entreprise qui ne respectent pas leurs obligations à l'égard de leur emploi.
Justement, j'allais vous le dire, que ces chefs d'entreprise soient avec des entreprises qui ont plus ou moins pignon sur rue, pourquoi n'y a-t-il pas de négociation globale avec le patronat ? Pourquoi n'y a-t-il pas de négociation par branche également, Mamadou Touré ?
Il y a des négociations, il y a des cadres de discussion, en tout cas pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des cadres de concertation avec le secteur privé qui remontent régulièrement donc ces préoccupations. Mais force est de reconnaître que malheureusement, vous avez certains chefs donc, d'entreprise qui abusent manifestement donc, de leurs employés et qui ne créent pas les conditions. Donc même quand ces entreprises engrangent donc beaucoup de ressources, il y a très peu d'investissement donc dans l'amélioration des conditions de travail donc des employés. Et c'est ce qu'il faut dénoncer.
Est-ce que vous avez le sentiment à l'OIT que finalement les États sont prisonniers de la croissance économique, parce que c'est évidemment le chiffre qui compte, du chantage aussi à l'emploi dans des pays où de toute façon on a 30 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail sur le continent africain, et que donc il faut d'abord résoudre les questions de l'accès à l'emploi avant de s'occuper de la précarité, de la pénibilité?
Moi, je dirais qu'il ne faut pas se tromper de débat. Ce n'est pas un débat sur la croissance. Kamal, tout à l'heure, a prononcé le mot-clé, je crois, c'est le mot de productivité. En fait, on ne réussira cette transition vers l'emploi formel que si on arrive, pour un travailleur, à générer suffisamment de revenus pour pouvoir vivre décemment de son travail, pour pouvoir aussi contribuer au financement des institutions publiques, parce que l'informalité, c'est aussi la conséquence d'un manque de capacité institutionnelle. Vous savez, le marché du travail, c'est une fiction juridique. Hein. C'est quelque chose qui ne tient que parce qu'il y a des règles et des institutions pour le faire fonctionner. Donc, la clé, c'est d'augmenter la productivité, c'est de gagner en efficacité dans les processus productifs, c'est de faire grandir ces entreprises de l'économie informelle dans des stratégies de croissance, mais de croissance durable et inclusive. Pardonnez-moi ce jargon, mais ça veut dire une croissance qui dure et une croissance qui permette de réduire les inégalités.
On accueille un dernier auditeur, Lamine, qui nous appelle d'Abidjan au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Lamine.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, on vous accueille, on est ravis de vous entendre. Il nous reste vraiment très peu de temps, on vous écoute Lamine.
Ben je vais aller vite. Alors, je voudrais juste suggérer à Monsieur le ministre Touré Mamadou pour sortir un peu de l'informel, simplement, et avoir à peu près 3 ans de formalisme, de faire en sorte que les jeunes puissent créer ce qu'on appelle des start-up sur toute l'étendue du territoire, en leur garantissant un minimum forfaitaire de 3 millions de francs CFA qui est utilisé justement pour former les jeunes et qui ne sont finalement pas formés comme il faut. Et je pense que ça pourrait permettre effectivement de leur garantir au moins 3 ans de formalisme et d'employabilité. Et ensuite, pour faire je vais proposer aussi pour obtenir donc de la durabilité et de l'inclusivité justement dans ce qui est proposé, de permettre donc que le ministre puisse travailler avec le secteur privé qui est celui-là qui crée des emplois dans le cadre d'un forum qu'il pourra organiser éventuellement, laisser les privés proposer des solutions pour créer des emplois durables et inclusifs.
Merci beaucoup Lamine. Alors demain, tous les jeunes patrons de start-up, il ne faut pas rêver quand même.
Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est notre rôle aussi de vulgariser les lois. Vous avez, pour les jeunes entrepreneurs, une exonération qui part donc de 3 à 5 ans pour ceux qui créent donc, en termes d'impôts, pour ceux qui créent donc des emplois. Et je peux rassurer la mine sur le fait que la discussion avec le secteur privé est en cours. Hein, et nous savons un peu quelles sont les préoccupations donc, de ce secteur privé qui souvent estime que la charge patronale est est trop élevé et pèse donc sur l'entreprise. Ce sont des questions qui sont en perpétuelle discussion et donc des réponses. On essaie d'apporter donc des réponses. Mais pour les mesures, donc il y a des exonérations pour ces jeunes. Il y a un mécanisme de financement donc pour ces jeunes, mais beaucoup de jeunes n'ont pas accès à l'information et nous allons corriger cette situation.
Et bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci à vous, Moustapha Kamal Gueye et Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Et merci à vous, Marie-Pierre Nicolet de l'AFD et Cyril Combe du Bureau international du travail. À demain les voisins.